Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
La miséricorde n'est pas un sentiment, aussi bon soit-il, c'est la vraie force qui peut sauver l'homme et le monde du cancer du péché. Lors de la prière de l'Angélus, le pape a invité chaque fidèle à prier pour une personne avec laquelle il s'est brouillé afin de devenir miséricordieux. Retour sur les paroles du pape dans cette émission. Nous évoquons aussi les difficultés rencontrées par les catholiques du Vietnam ou encore la marche pour la vie qui s'est tenue en Suisse ce week-end. Avant de donner la parole à l'ancien correspondant du journal La Croix à Rome, Frédéric Mounier est l'invité de Sœur Catherine Aubin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en langue française de Radio Vatican. Imperméable bleu, rose, vert, orange, place Saint-Pierre, une marée de parapluies. Malgré la pluie, des milliers de fidèles se sont rassemblés sous les fenêtres du palais apostolique pour la prière de l'Angélus. Ce dimanche, le pape François leur a expliqué que la justice humaine ne permettait pas le salut du monde comme veut le faire croire le diable, mais que seule la justice de Dieu peut sauver. Olivier Bonnel.
La miséricorde n'est pas un sentiment, aussi bon soit-il, a souligné le pape, mais la vraie force qui peut sauver l'homme et le monde du cancer du péché. Seul l'amour peut faire cela, telle est la joie de Dieu, a-t-il insisté. Les paraboles de ce dimanche montrent que chacun de nous est cette brebis ou cette pièce perdue, ce fils prodigue, a expliqué François, en soulignant que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est un père patient, il nous attend toujours, respecte notre liberté et est toujours fidèle. Cette joie de Dieu est véritable quand un de ses fils revient à lui et lui demande son pardon, a encore expliqué le pape. François a aussi invité chacun à se garder de la tentation de juger les autres et de juger Dieu lui-même et à faire croître dans son cœur la miséricorde et la joie de pardonner, sans lesquelles nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Le souverain pontife a ainsi récusé la célèbre loi du talion. Si nous vivons selon la loi œil pour œil, dent pour dent, nous ne pouvons jamais sortir de la spirale du mal, a-t-il dit. Le malin nous fait croire que notre justice humaine peut nous sauver et sauver le monde, mais en réalité, seule la justice de Dieu peut sauver.
Le pape a enfin conclu en demandant aux pèlerins réunis de prier quelques instants en silence pour une personne avec laquelle nous nous sommes brouillés afin de devenir miséricordieux avec elle. Et après l'Angélus, le pape a parlé d'un prêtre qui finit sa vie aveugle, lépreux, mais joyeux parce que miséricordieux. Le pape a évoqué la mémoire d'un prêtre du diocèse de Cordoba, le père José Gabriel Brochero, qui fut béatifié ce samedi en Argentine. Né en 1840, il fit des kilomètres sur le dos de son ânesse pour aller à la rencontre des gens, leur annoncer la bonne nouvelle avant de décéder en 1914. Que par son intercession se multiplient les vocations au sacerdoce, a affirmé le pape en espagnol. Et puis François a également une pensée ce dimanche pour les familles italiennes à l'issue des 47e semaines sociales qui leur étaient consacrées cette semaine à Turin. « Je me réjouis de l'implication importante que l'Église italienne accorde aux familles et pour la famille. C'est une forte stimulation », a dit le pape, « pour les institutions et pour tout le pays ». Enfin, dans un tweet diffusé dimanche après-midi sur le réseau social, François rappelle que chercher son bonheur dans la possession de choses matérielles est une manière assurée de ne pas être heureux. Ce lundi matin, à 10h, le pape François se rendra à la basilique Saint-Jean de Latran pour y rencontrer le clergé du diocèse de Rome, dont nous le savons, il est l'évêque. Pour préparer les prêtres de ce diocèse à cet échange, le cardinal Agostino Vallini, le vicaire de la ville éternelle, a envoyé à la demande du pape François une réflexion que ce dernier avait écrite en 2008 lorsqu'il était encore le cardinal Bergoglio. Dans ce document, l'archevêque de Buenos Aires revient sur l'identité du prêtre qui doit éviter de se perdre dans son moi pour se sentir appartenir au contraire au troupeau du peuple de Dieu, lié par deux mots à ce troupeau, don et fidélité. Le prêtre doit être miséricordieux pour accompagner les fidèles sur le chemin de la réconciliation. Enfin, le pape souligne l'importance d'être un ardent missionnaire et non un simple fonctionnaire. Depuis le Venezuela, où il est encore nonce apostolique, le futur secrétaire d'État du Saint-Siège avoue éprouver une certaine crainte face à cette nouvelle responsabilité. Dans une interview accordée ce week-end à la radio publique italienne, la RAI, Mgr Pietro Parolin s'est cependant dit heureux de se mettre à la disposition du pape. Au Vietnam, on déplore des violences policières contre des fidèles catholiques. Les faits se sont passés il y a une douzaine de jours maintenant à Mai Yen, près de Vinh, dans la province de Nghệ An. Il s'agirait apparemment d'une manifestation qui aurait dégénéré. Les précisions de notre correspondant à Hanoï, Victor Guillot.
Les circonstances exactes des événements sont encore floues. Le 4 septembre dernier, 300 paroissiens se rassemblent devant le comité populaire local, l'équivalent de la mairie. Les manifestants réclament la libération de deux prisonniers catholiques arrêtés en juin dernier. C'est là que, visiblement, la situation dégénère. D'après de nombreux sites internet catholiques, la police cherche alors à disperser les protestataires et pour cela n'hésite pas à employer la manière forte, tir à balles réelles et usage de matraques électriques. Bilan, plusieurs dizaines de blessés, dont certains seraient aujourd'hui dans un état grave. Des photos circulent sur internet, on y voit des personnes allongées sur des lits d'hôpitaux, plusieurs sont blessés à la tête. Elles montrent aussi un nombre impressionnant de policiers et de forces de l'ordre. Le gouvernement de Hanoï a reconnu qu'il y avait des blessés mais a minimisé l'affaire, rappelant via la presse officielle que des policiers avaient également reçu des coups. La presse qui rejette la faute sur les manifestants, coupables selon eux d'avoir lancé des pierres sur les policiers. L'évêque du diocèse a officiellement contesté cette version dans une lettre lue dans les églises. Pour lui, le rassemblement des chrétiens a été pacifique. Il a reçu le soutien d'autres dignitaires religieux, notamment bouddhistes et protestants. Hanoï, Victor Guillot pour Radio Vatican.
Deux rassemblements ce samedi en Suisse, à Zurich, la marche pour la vie contre l'avortement a rassemblé 2000 personnes. L'association Choisir la vie, qui a organisé cette marche, s'est demandé si l'avortement était réellement compatible avec le principe de soutien des plus faibles, tel qu'il est inscrit pourtant dans la Constitution fédérale. Et puis à Berne, ce n'est pas la vie mais l'avenir du pays qui a rassemblé 500 chrétiens de toutes confessions et de tous les cantons de la Confédération. Ils ont prié dans les quatre langues nationales pour montrer leur attachement à Dieu et à leur patrie. Cette journée de prière s'est tenue à la veille de la journée de jeûne fédérale, instaurée en 1832 pour consolider la paix religieuse et la paix sociale dans le pays. Dans la capitale française, à Paris, c'est une tradition depuis 2002 à l'occasion de la journée diocésaine pour la jeunesse qui se tient ce dimanche. Le cardinal 23 a souhaité s'adresser à tous les Parisiens catholiques. Il leur a rappelé que la mission de l'Église est d'annoncer le Christ afin de contribuer à une meilleure qualité de la vie en société. Car, dit-il, ce serait une illusion de croire que la société dans laquelle nous vivons est une société neutre. Elle véhicule des valeurs, des conceptions de la vie, des choix moraux qui s'imposent progressivement à ceux qui n'ont pas la capacité de réagir, explique le cardinal 23. Et il faut soigneusement accompagner les enfants, car ils découvriront rapidement que la vie chrétienne, à la suite du Christ, constitue une différence par rapport à ce que tout le monde pense. Mais comment faire? Pour la plupart des chrétiens, les premiers pas sur ce chemin de foi ont pris forme au sein du noyau familial. On y apprend les signes de la foi, ses premières prières, la découverte aussi des grandes figures bibliques. Mais certains parents, explique le cardinal, ne se sentent pas compétents, légitimes. En outre, il est important, dit-il, d'entrer progressivement dans le peuple de la foi qui est l'Église. Bref, de partager sa foi avec d'autres, d'où le rôle fondamental du catéchisme, même si le premier pédagogue de la foi reste le Saint-Esprit. Et puis toujours dans la capitale française, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, rendra hommage au cardinal Lustiger jeudi prochain. La ville a en effet décidé d'associer le nom de l'ancien archevêque de Paris au petit pont situé à l'une des extrémités du parvis de Notre-Dame, la place Jean-Paul II. Dorénavant, ce pont sera dénommé Petit Pont Cardinal Lustiger, ce dont se félicite le diocèse de Paris. L'invité de ce dimanche vient de rejoindre la capitale, de partir de Rome alors qu'il y était depuis 4 ans. Il s'agit de Frédéric Mounier, qui était l'envoyé spécial permanent du journal La Croix. Il a pris ses fonctions le 15 août 2009, suivi l'actualité religieuse, diplomatique du Vatican ainsi que l'actualité de l'Église universelle à Rome, à travers l'ensemble des congrégations et des ordres religieux, entre autres. Spécialiste de l'information religieuse depuis près de 20 ans, il a longtemps dirigé le service religion de La Croix. Interrogé par Catherine Aubin, Frédéric Mounier fait le point sur ses 4 années et sur la façon dont il a pu travailler au Vatican. Il nous fait partager ses découvertes, ses déceptions, mais aussi ses interrogations.
Frédéric Mounier, vous terminez votre mission comme correspondant au journal La Croix. Quand on est, comme vous, journaliste vaticaniste, quel est l'accès que vous avez aux informations? Comment avez-vous cet accès à l'information? Et surtout, quelle est votre façon de le transmettre?
Être vaticaniste, c'est un métier qui est très difficile. Le Vatican est l'une des dernières institutions au monde qui se protège. Il y a ici de nombreux émetteurs de communication, la salle de presse du Saint-Siège, Radio Vatican, le Conseil pontifical pour les communications sociales, l'Osservatore Romano, la télévision du Vatican, etc., etc. Mais la machine vaticanesque elle-même est très très peu apte à communiquer. Elle est très très souvent en autoprotection. Alors aujourd'hui, évidemment, tout est en train de changer avec le pape François, mais notre métier est un métier difficile, c'est un métier d'auscultation, de recoupement, de confirmation, d'infirmation. Nous devons multiplier les sources.
Comment vous êtes situé par rapport à ça, Frédéric Mounier? Vous avez analysé, vous avez observé, et puis il a fallu tailler votre route. Comment vous avez fait?
Il a fallu devenir de plus en plus affûté. J'ai vite compris que mes confrères vaticanistes italiens, étaient des gens qui, depuis les siècles des siècles, auscultaient le Vatican. Et que donc, ils avaient des contacts que je n'avais pas et que probablement je n'aurais jamais. Et donc, j'étais attentif à les écouter, à les lire. Ça m'a donné une toile de fond, une sorte de bruit de fond qui m'a aidé à comprendre ce qui se passait ici. L'autre difficulté qui est très importante, c'est que je sais que je m'adresse à des lecteurs français ou à des internautes français, et la France est tellement loin du Vatican que j'ai dû prendre soin pendant ces 4 années d'être toujours extrêmement attentif à décoder, décrypter, donner des éléments de lexique pour faire le pont entre cette culture italo-vaticane et la culture française, ces deux cultures étant profondément et terriblement étrangères l'une à l'autre.
Alors Frédéric Mounier, 4 ans à Rome, vous avez pris la seconde partie du mandat de Benoît XVI, vous avez inauguré le pontificat du pape François, vous faites un résumé, un bilan de vos 4 ans. Qu'est-ce qui apparaît tout de suite?
Ce qui apparaît tout de suite, c'est qu'ici à Rome, quand on ausculte le Vatican, on prend tout de suite une conscience très aiguë de l'universalité de l'Église. L'universalité, ici, on voit toutes les couleurs du monde, toutes les cultures du monde, tous les esprits du monde qui se croisent. Et donc, on apprend à se décaler, on apprend à se décentrer pour vraiment vivre cette universalité. J'ai des souvenirs très très précis, aussi bien au Royaume-Uni qu'en Slovaquie, qu'au Mexique, à Cuba, au Bénin. Ce sont des ambiances extraordinairement différentes, mais c'est la même Église.
Mmh. Est-ce que ça a été aussi pour vous l'occasion de passer d'être un journaliste français à un journaliste plus universel?
Oui, naturellement. C'était une assaise quotidienne. Ça permet de grandir personnellement et de prendre conscience du fait que, encore une fois, notre logiciel français, fortement marqué par la Révolution française, par une histoire de France où le christianisme a joué un rôle très très prégnant, fortement marqué par la laïcité à la française, dont nous croyons tous, nous français, qu'elle est universelle, alors qu'en fait elle est profondément singulière. Tout ça, reconstruire son logiciel personnel pendant 4 ans à Rome, ça fait évidemment grandir. Alors, il y a un point qui m'a quand même beaucoup agacé, c'est que j'ai pris conscience à quel point le système du Vatican est un système qui est marqué par l'Italie. Et j'explique toujours à mes amis français que si Saint-Pierre avait atterri sur les rives de Lutèce au lieu d'aller à Rome, au centre de l'Empire à l'époque, eh bien, si le Vatican était sur l'île de la Cité, le Vatican serait profondément imbibé de la culture française, de la façon française de travailler, de vivre l'argent, de vivre l'amour, de vivre le corps, de vivre la parole, de vivre tout ça. Ça n'est pas le cas, mais j'ai compris à quel point cette italianité était très très importante pour comprendre le Vatican ici, et ça a été peut-être pour moi le point le plus difficile pendant 4 ans. J'ai été étonné les premières semaines de voir mes confrères italiens pendant les conférences de presse. Ils ne posent pas des questions, ils font des éditoriaux. J'étais toujours très étonné de voir comment se déroulent les conférences de presse au Vatican. C'est l'un des derniers endroits au monde où les conférences de presse se déroulent de cette façon-là. C'est quelque chose entre une liturgie et un colloque universitaire. C'est très très éloigné des critères contemporains d'une conférence de presse. Mais c'est intéressant, c'est à analyser en tant que tel, c'est à apprendre en tant que tel. On est vraiment ici à Rome dans un univers profondément italien. Alors évidemment, il est tout à fait intéressant de voir à quel point l'élection d'un pape non italien venu du bout du monde bouscule ses codes et remet le système en mouvement. C'est évidemment passionnant à observer.
Est-ce que vous avez été sensible à d'autres aspects ?
Oui, j'étais sensible à la grande pauvreté de l'Église. Au-delà de l'apparence de puissance, au-delà des palais, le système du Vatican est un système globalement assez pauvre. Le budget du Vatican est faible. Le nombre de personnes, je dis toujours qu'au Vatican, on travaille globalement 2000 personnes, y compris les jardiniers, les gardes suisses, les électriciens et les gardes de sécurité. 2000 personnes, c'est rien. À la Commission européenne, il y a 40 000 personnes. À la mairie de Paris, il y a 40 000 personnes. Et le budget du Vatican, aux alentours de 250 millions d'euros, c'est quelque chose d'absolument dérisoire. Quand on prend en compte le 1,2 milliard de baptisés dans le monde, les 50 millions de jeunes qui sont dans l'éducation catholique dans le monde, les milliers d'hôpitaux, etc. Donc le centre de l'Église, au-delà des apparences princières, riches, qui sont de simples héritages de l'histoire, le centre de l'Église vit de peu. Et il vivra, je crois, de plus en plus dans les années qui vont venir, de peu, parce que la crise frappe aussi l'Église. Et donc, cette pauvreté est à prendre en compte. Quand j'explique à mes amis qu'un ministère du pape, c'est-à-dire un dicastère, regroupe 15 personnes, y compris les 5 huissiers qui sont à l'entrée, c'est très très faible, c'est très très peu. Et le pape dispose de peu de moyens pour accomplir sa mission, et je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête pour comprendre ce qui se passe ici au Vatican.
Et au niveau relationnel, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous pose encore des questions ?
Alors, au niveau relationnel, il y a plusieurs circuits ici. Il y a le circuit diplomatique. Le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec 170 pays dans le monde, c'est-à-dire qu'avec la quasi-totalité des pays. Et donc, il y a ici environ 80 ambassadeurs résidents. Et donc c'est toujours intéressant de rencontrer ces hommes et ces femmes parce qu'ils viennent d'ailleurs, ils iront ailleurs et ils auscultent aussi, avec nous vaticanistes, ils auscultent cette fameuse boîte noire. Il y a aussi un circuit qui n'est pas le circuit du Vatican, mais qui est à Rome, qui est le circuit romain. Ce sont toutes les maisons généralistes des congrégations religieuses. Souvent, je me suis dit que la vie religieuse et consacrée était vivante, très intéressante, parce que à l'œuvre partout dans le monde, et que rencontrer leurs responsables ici à Rome, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné et parfois qui m'a rassuré sur l'avenir de l'Église. C'est-à-dire, je me dis qu'il y a là beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence de la foi, d'intelligence des situations. Et puis évidemment, il y a un point qui est le point noir de la curie, c'est l'absence de femmes. Et ça, c'est quelque chose dont tout le monde est conscient. Nous sommes dans un milieu, peut-être parce qu'il est italien, peut-être parce que les fonctions sont trop cléricalisées, de très nombreuses fonctions dans la curie pourraient être occupées par des hommes non ordonnés, par des laïcs, ou par des femmes, religieuses ou non, religieuses ou laïques.
Alors, Frédéric Mounier, vous avez eu la chance de connaître deux papes. Qu'est-ce qui vous vient spontanément d'abord sur Benoît XVI ?
Benoît XVI, pour moi, c'est le pape méconnu. J'ai vite compris à quel point cet homme était l'un des grands intellectuels du XXe et du XXIe siècle, à quel point son apport a été très très important, fondamental pour la construction intellectuelle et spirituelle de l'Église, et à quel point il était méconnu, peut-être parce qu'il utilisait des mots compliqués, peut-être parce qu'il était victime à plusieurs reprises d'un lynchage médiatique qui est tout à fait odieux. Alors Bergoglio, c'est évidemment autre chose, mais c'est la même chose en même temps. C'est-à-dire que sur le fond, sur la foi, on voit les mêmes insistances. Ces deux papes nous obligent à nous décaler, nous oblige à sortir des idées toutes faites et nous oblige à remettre l'homme au nom du Christ au centre de la pensée. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement dynamisant, intéressant, passionnant.
Le journaliste et spécialiste de l'information religieuse depuis près de 20 ans au journal La Croix, Frédéric Mounier, était l'invité de ce dimanche de Sœur Catherine Aubin. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.